Jacques Radio aux entretiens d'Auxerre.
Bonjour chers auditeurs, donc, nous sommes en direct du théâtre d'Auxerre. Nous intervenons sur la thématique du genre avec Anne Benoît. Alors tout d'abord, que voulez-vous montrer durant cet échange ?
Alors nous avons souhaité montrer que le genre, nous devions continuer à pouvoir le penser dans toute sa complexité, car c'est un opérateur critique de pensée qui ouvre des possibles et en même temps, c'est toujours quelque chose qui est menacé par les idéologies totalitaires. Autrement dit, le genre est une catégorie riche et problématique, une catégorie d'ouverture, mais aussi une catégorie qui fait peur. Le genre est porteuse comme catégorie d'espérance, d'ouverture. On arrête de penser de façon binaire, homme, femme. Et en même temps, le genre fait peur. Et nous avons tenté d'expliquer pourquoi, tout en montrant ce qu'il avait apporté dans les sciences sociales, en histoire et dans tous les domaines individuels et collectifs, dans la vie de tous les jours et dans la vie aussi académique et dans la recherche.
Pensez-vous que l'on est femme ou homme ou qu'on le devient ?
Alors c'est une question sur laquelle il faudrait répondre avec un peu plus de temps. C'est-à-dire que très clairement dans l'Antiquité grecque, jusqu'au Moyen-Âge, 19e, 20e, on naissait homme et femme. Il y avait deux sexes, comme chez les animaux. Puis un jour, comme vous le savez peut-être, Simone de Beauvoir a écrit « On ne naît pas femme, on le devient ». Bien avant elle, un certain nombre de femmes, avant même que le mot « genre » n'apparaisse, s'étaient interrogées sur cette histoire de différence entre un corps sexué et un genre. Pour répondre à votre question, je commencerai par dire une chose. Il y a des individus, 1,7% d'entre eux, à 2%, qui ne sont ni hommes, au sens où la biologie nous dit qu'on peut être un homme, ni femmes, qui sont intersexuées. Ça complique la réponse. Déjà, en strict terme biologique, on ne peut pas dire que l'on est forcément soit homme, soit femme. La nature est bien plus complexe qu'on peut l'imaginer. Et par ailleurs, on sait maintenant, avec ce qu'on appelle l'épigénétique, que nos caractères innés, génétiques, peuvent se développer différemment selon les contextes sociaux, historiques, géographiques, etc. Et donc, il y a toujours un devenir du genre. On est avec un sexe, et c'est déjà compliqué, biologique, mais on est toujours en devenir en fonction des contextes dans lesquels on s'exprime, où on vit, et en fonction des environnements familiaux, sociaux, politiques et géographiques. Quand on fait des études de genre, on ne nie pas le corps et la biologie, simplement on s'intéresse à toute cette partie de l'identité qui est toujours en devenir et en construction.
Quand vous parlez de gender fluide, est-ce que par exemple, pour les gens qui ne connaissent pas, est-ce que vous pourriez un peu expliquer le terme, expliquer ce que ça veut dire, ce que ça sous-entend ?
Lorsque on décide qu'il n'y a que deux catégories possibles, mâle, femelle, homme, femme, hétérosexuel, homosexuel, on est dans le contraire de ce qui s'appellerait la fluidité. La fluidité, c'est renoncer aux catégories, à ce qui nous enferme dans des cases. C'est se dire que son identité permet de passer d'une case à l'autre, en fonction des moments, en fonction d'un devenir, sans que ces cases soient forcément au nombre de deux. Donc, il y a cette idée dans la fluidité qui permet justement d'ouvrir les catégories, de changer de catégorie et de ne pas décider à l'avance ce que l'on est aujourd'hui, ce que l'on va être demain.
Vous considérez que notre orientation sexuelle, elle vient plutôt de l'inné ou de l'acquis ?
C'est une question à laquelle je ne sais pas répondre. Parce que je ne suis pas sûre qu'on puisse dire complètement que l'orientation sexuelle est un choix. Mais c'est intéressant parce que dans les années 90, un certain nombre de militants homosexuels ont pensé que l'homosexualité et toute forme d'orientation sexuelle étaient finalement un choix. Et puis, plus tard, les homosexuels ont dit « c'est pas un choix, c'est peut-être génétique, c'est peut-être inscrit dans nos corps ». Et donc, le débat sur l'orientation sexuelle est-elle un choix ou pas un choix est un débat compliqué qu'on ne peut pas résoudre. Et il y a des personnes qui se découvrent, qui se sont pensées hétérosexuelles et qui se découvrent homosexuelles. Et la question est de savoir si ceci était caché, réprimé, toujours là. Et donc, si cette orientation sexuelle est susceptible pour tout un chacun de changer en fonction des moments de la vie. Donc j'aurai jamais une réponse simple à cette question.
Est-ce que vos réflexions sur le genre, est-ce que vous avez réussi à trouver l'inspiration, par exemple, dans la littérature du 19e et du 20e siècle que vous étudiez et que, sur lequel vous travaillez?
Alors, ça a complètement un impact. Moi, je viens de la littérature, d'abord du 20e, de cette littérature au moment, qui intervient à un moment donné où, en Angleterre, en tout cas, les femmes vont pouvoir avoir le droit de vote et devenir citoyennes. Mais si on regarde en arrière, et il me semble que tout vient du 19e, nous venons du 19e. Michel Foucault disait « nous autres victoriens ». Et donc, nous venons de ce moment au 19e où les idéologies se font jour sur la race, sur le sexe, sur la classe. Et lire le 19e siècle, par exemple, des gens comme Jane Austen ou Emily Brontë, c'est lire des choses. Il n'y a pas le mot genre à l'époque dans la littérature, mais la littérature parvient à dire des choses qu'à l'époque, la société ne parvient pas à dire. Je prends un exemple. Mon roman préféré, c'est Les Hauts d'Hurlevent d'Emily Brontë. Et dans ce roman-là, on a Catherine qui est d'une violence presque virile, d'un égoïsme qui va contre les codes de l'époque, qui est d'une passion amoureuse qu'on attribue généralement aux hommes. Et on a un certain nombre de personnages masculins et féminins qui défient complètement les catégories de sexe, on dirait aujourd'hui les catégories de genre. Et je vous donne un autre exemple, plus proche, le roman de Virginia Woolf qui s'appelle Orlando a été une source d'inspiration. Voilà un roman écrit en 1928-1929 dans lequel Virginia Woolf imagine un héros homme, Orlando, qui naît à la Renaissance, qui change de sexe au XVIIIe siècle sans que ça pose le moindre problème et qui ne meurt jamais. Et donc qui devient femme et qui se dit qu'il peut continuer à être qui il, elle est. Et la littérature, dans ce texte, va jouer sur les pronoms. Par exemple, le narrateur se demande comment il faut appeler Orlando. Est-ce qu'on dit « he » ou bien « she », il ou elle, et comment est-ce qu'on fait pour nommer ce personnage qui change de sexe? Donc on trouve dans les textes littéraires des pistes d'inspiration qui sont très, très fortes avant même que le terme de genre existe.
Les gens qui sont assez réticents sur le fait de pouvoir ne pas avoir justement le féminin et le masculin, de justement cette fluidité, qu'est-ce que vous pensez
qu'ils se disent? Je ne peux pas attribuer à ces personnes une intention que je connaîtrais. Mais je me dis toujours que la violence naît souvent de la peur. C'est pour ça que j'ai insisté dans mon propos tout à l'heure, lors de la table ronde, sur le fait que c'est ce qui fait peur qui nous rend parfois violents. Et dans un monde où tout change, la planète, notre rapport au monde, tout va vite, tout change, pour certaines de ces personnes dont j'ai entendu les discours, la famille, la reproduction, la filiation, le fait d'être un homme ou une femme, les identités claires, c'est une stabilité qui les rassure. La complexité, la fluidité, c'est pour certains, certaines, quelque chose d'attirant. Pour la plupart du gens, la complexité, c'est ne pas savoir qui l'on est, où on se positionne. Et puis c'est surtout mettre en péril peut-être la famille, le couple et du coup la nation. Parce qu'on sait très bien que la famille, c'est l'ancrage aussi de politiques plus nationales, plus étatiques, etc. Que le couple et les identités sexuées, c'est l'ancrage de politiques économiques, sociale et culturelle. Si on perd, entre guillemets, cela, si on perd la dualité, si on perd des catégories aussi, entre guillemets, simples que celles-là, alors peut-être qu'on perd tout.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Jack Radio aux Antoniens d'Auxerre.